Frères et sœurs, dimanche dernier, nous étions avec Jésus en marche vers la Galilée et nous avons fait halte près du puits de Jacob au moment où la femme samaritaine y arrivait. Et il nous a été donné d'assister à cette rencontre et à une véritable conversion. Ce matin, nous sommes de retour à Jérusalem et nous voyons Jésus passer devant l'entrée du temple où se trouve un homme aveugle de naissance. Et il nous est donné d'assister à une nouvelle conversion et à une véritable illumination. Grâce à Jésus, nous venons de l'entendre, cet homme retrouve la vue. Il passe des ténèbres à la lumière et de l'ignorance à la foi. Il inaugure ainsi le grand passage auquel nous sommes appelés à notre tour. Nous méditons cet évangile ensemble et nous entourons de notre prière, je le disais tout à l'heure, nos frères et sœurs catéchumènes qui vont vivre le deuxième des trois scrutins, car ils éprouvent intérieurement ce grand passage qui conduit à la foi. Ils ont répondu, eux aussi, à l'appel de Jésus en se disposant à marcher à sa suite. L'aventure de la foi commence toujours, en effet, par un appel et par la réponse libre à cet appel. Un premier exemple nous a été rappelé par l'initiative du prophète Samuel que le Seigneur envoie désigner celui qu'il a choisi comme roi pour son peuple. La feuille de route est brève et la recommandation étrange. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Comprendrons-nous un jour que les critères de Dieu ne sont pas les nôtres? Comprendrons-nous enfin qu'il nous a choisis par miséricorde absolue et non par nos mérites ni par nos qualités éventuelles? Et le prophète d'ailleurs se trompe. Avant de se raviser et de tourner son regard vers le plus jeune des fils de Jessé, un petit garçon qui ne devait pas devenir roi aux yeux des hommes. Mais le Seigneur regarde le cœur. Pourrions-nous inscrire ces mots en lettres de feu dans nos maisons et nos églises, dans nos livres et surtout dans nos esprits, afin que nous passe enfin la tentation de juger selon la loi dérisoire des apparences et des rumeurs? Et le jeune enfant, aussitôt, devint roi d'Israël en recevant l'onction d'huile à l'endroit même où il se trouvait. Cet épisode nous révèle la méthode privilégiée de Dieu. Il vient nous chercher là où nous sommes et là où nous en sommes. Il ne réclame de David aucune préparation particulière, aucune attestation de ses talents ni de sa bonne volonté. Il désigne aux autres celui qu'il a choisi et lui accorde sa confiance en vue de la mission à venir. Et en retour, David répond avec simplicité et entrain. Dans l'hypothèse où nous n'aurions pas encore bien compris le projet de Dieu, l'Évangile nous montre Jésus qui pose son regard sur un homme aveugle et mendiant. À aucun moment, son prénom ne se trouve révélé, signe dérisoire de la méfiance qu'il inspire et de l'exclusion dont il souffre. Mais s'il demeure inconnu pour les hommes, il ne l'est pas pour Dieu. En vérité, il n'est pas tout à fait inconnu de ceux qui l'entourent, car il fait partie, comme on dit, du paysage. Il se tient au pied des marches du temple, et les pèlerins, par milliers chaque jour, passent devant lui sans y prêter attention. Quelques-uns, sans doute, l'ont repéré mieux que les autres et prennent peut-être soin de lui, mais il demeure réduit à son handicap et à sa situation en marge de la vie sociale et religieuse. Ce jour-là, pourtant, c'est lui et aucun autre que Jésus choisit et fait entrer dans la vie nouvelle. Le signe utilisé est plein de sens et de promesses. Jésus prend de la boue qu'il applique sur les yeux de cet homme aveugle. Avant la lumière, il y a cette boue qui rappelle la boue dont se sert Dieu pour créer l'homme au début du livre de la Genèse. En quelque sorte, Jésus donne naissance à cet homme qu'il conduit aussitôt vers la piscine de Siloé pour qu'il s'y lave. Siloé, dont le nom signifie « envoyé ». À partir de cette heure, il se trouve envoyé en mission. Il ne sait pas grand-chose de celui auquel il doit cette guérison miraculeuse, mais il ne va pas tarder à prendre conscience que ce changement extérieur préfigure surtout un mouvement intérieur, celui de la foi. Le caractère décisif de l'événement se trouve en effet dévoilé dans la seconde partie du récit. Nous avons assisté aux nombreux va-et-vient des témoins de la scène, à l'agitation presque frénétique des pharisiens qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas comprendre, à l'arrivée des parents qui sont priés de rendre des comptes, et aux questions qui tombent en cascade sur cet homme empêché de goûter la joie de voir. Or, en définitive, cette joie de voir se transforme en joie de croire. Une seconde rencontre avec Jésus permet d'engager le dialogue, et la réponse ultime est une parole de foi. « Je crois, Seigneur. » Et le dernier geste est une attitude de foi. Il se prosterna devant Jésus. Au cœur du temps de carême, frères et sœurs, nous sommes invités à présenter humblement au Seigneur nos questions et nos doutes, nos peines et nos épreuves, nos inquiétudes, nos hontes et nos ténèbres intérieures. Ainsi que nous le chantons dans une hymne pendant le carême, il n'est point de ténèbres sans espoir de lumière. Rien n'est fini pour Dieu. Que vienne l'aurore où l'amour surgit, chant d'un matin de Pâques. Dès à présent, la résurrection est à l'œuvre, car le Seigneur pose sur chacun d'entre nous son regard de tendresse et de bonté, un regard qui apaise et qui relève. Il nous regarde et il nous parle. Va te laver à la piscine de Siloé. De ce lieu, creusé dans le sol, tu ressortiras guéri de tout mal, apaisé de toute blessure, ressuscité à la vie nouvelle. Amen.